RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Il est 3h à Jakarta, 20h en temps universel. Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie, avec des programmes en français.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, présente le journal, les informations actuelles et les divertissements de l'Indonésie.
Vous pouvez écouter nos émissions en ondes courtes sur 3325 kHz.
Vous pouvez également écouter nos émissions sur www.voinews.id/french.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.
Bonsoir, chères auditrices et chers auditeurs. Voici l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Notre émission sera commencée par le journal, suivi les nouvelles de l'Indonésie et l'histoire d'aujourd'hui. Nous allons également présenter Mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et le magazine musical. Voilà le programme pour aujourd'hui. Écoutons maintenant le journal et les nouvelles de l'Indonésie.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le programme Le Journal. Nous commençons avec les titres. Le président discute du projet de loi des pensionnats islamiques avec les ulémas d'Aceh. La révolution industrielle 4.0 crée 3,7 millions de nouveaux emplois. La ministre Kini a dit la génération du millénaire est importante pour le développement des entreprises d'État. L'Indonésie et la Finlande établissent une coopération dans trois domaines. Garuda Indonesia rouvre ses vols vers Londres. Et enfin, la Minef rouvre le programme de bourse de WCI. Voici le journal complet. Le président Joko Widodo ou Jokowi a rencontré plusieurs ulémas et chefs de pensionnats islamiques ou pesantren de la province d'Aceh vendredi pour discuter d'un projet de loi sur pesantren. Le président Jokowi a déclaré que le projet de loi servait des intérêts à long terme, en particulier pour autonomiser et développer pesantren en Indonésie, dont le nombre maintenant est 28 000 pesantren. Il a déclaré que la loi est nécessaire pour offrir une base légale à l'allocation de fonds budgétaires à pesantren. Le président a également déclaré que les allocations budgétaires de l'État pour pesantren seraient utiles pour le développement de pesantren, y compris les salaires de ses enseignants. Lors de la réunion, le président a également discuté de l'islam wasatiyah ou l'islam modéré avec les ulémas. Les 105 ulémas ont assisté à cette réunion, y compris Tengku Muhammad Ismi ou Abu Madina. Le ministre de la Main d'œuvre de la République d'Indonésie, Emma Hanif Tahiri, a déclaré que 3 millions de nouveaux emplois seraient créés dans la prochaine révolution industrielle 4.0 et certains emplois disparaîtront. Selon le ministre, le secteur industriel sera perturbé et collaborera en nouveaux types de plateformes résultant en nouveaux types d'industrie. Ceci a un impact sur le type de travail dans l'industrie. Le ministre Hanif, dans un communiqué de presse reçu par République Online vendredi, a déclaré que l'avenir du travail à l'ère de la révolution industrielle 4.0 serait largement influencé par la présence de gros volumes de données. Sa présence offre une opportunité prometteuse de révolutionner le secteur industriel à l'échelle mondiale. Selon le ministre Hanif, par rapport à l'ère de la révolution industrielle précédente, la génération 4.0 est plus difficile à prévoir la direction du changement. La présence de gros volumes de données est un facteur important qui sous-tend ces changements. La ministre indonésienne des entreprises d'État, Rini Sumarno, a souligné l'importance du rôle de la génération de millénaires dans le développement des entreprises d'État actuelles. Parce que les entreprises d'État à l'avenir sont en train de se transformer pour s'adapter aux changements. Comme indiqué par Republica Online, la ministre Rini à Jakarta a déclaré récemment que les parents jouent un rôle important dans la formation de la génération de millénaires pour la création des entreprises publiques du millénaire. Sa partie essayera de poursuivre et d'équilibrer la façon de penser de la génération du millénaire. En outre, le ministère des Entreprises d'État et PT Telkom Indonesia TBK ont organisé une journée des Jeux de l'Esprit du millénaire 2018 à la J-Expo Kemayoran à Jakarta. Ce festival fait partie du programme de l'Esprit du millénaire initié par le ministère pour fournir un forum de créativité et d'innovation aux jeunes employés à former dans chaque entreprise d'État afin d'encourager l'esprit de transformation des entreprises appartenant à l'État face à l'ère en mutation. Les gouvernements indonésiens et finlandais ont coopéré dans trois domaines principaux depuis la visite du président finlandais Sauli Niinisto en Indonésie en 2015, notamment dans les domaines de l'énergie, des forêts et de l'éducation. L'ambassadeur de Finlande en Indonésie, Jari Sinkari, a déclaré à la Voix d'Indonésie que les trois collaborations étaient très importantes pour l'Indonésie et la Finlande. Notre coopération est forte dans trois domaines, à savoir la coopération énergétique, la coopération forestière et de l'éducation. Nous avons signé trois collaborations lors de la visite du président et par exemple dans le domaine de la coopération forestière, un groupe d'équipes d'experts indonésiens s'est rendu récemment en Finlande et en atelier afin de renforcer cette collaboration. La coopération forestière entre la Finlande et l'Indonésie existe depuis des décennies. Selon Jari Sinkari, la Finlande, qui possède le meilleur système éducatif du monde, mène un projet éducatif à Purwakarta, dans l'ouest de Java, spécialement pour les jeunes. Les deux pays coopèrent également dans le maintien de la paix. Cette année, la Finlande commémore sa 101e fête nationale. La compagnie aérienne Garuda Indonesia a commencé jeudi à rouvrir des vols directs Jakarta-Londres aller-retour. Ari Askara, président-directeur de cette compagnie aérienne, comme cité par Republica Online à Jakarta, a déclaré que les vols étaient desservis par des appareils à double classe Boeing 777-300ER. Ari Askara a expliqué que le vol avait été réouvert car il faisait partie de l'engagement continuel de Garuda Indonesia d'améliorer la qualité des services pour les vols internationaux, notamment en fournissant un accès à la connectivité directe de Jakarta à l'aéroport international de Londres, Heathrow et inversement. La Fondation des Sangs Indonésiennes Américaines, AMINEF, rouvre le programme de bourse d'initiative des collègues communautaires, ou WCI, pour les populations de Papouasie et de Papouasie-Occidentale. Les participants sélectionnés dans ce programme auront la possibilité de suivre gratuitement des études sans diplôme aux États-Unis. Le communiqué de presse reçu par Antara vendredi indique que le programme sera promu les 15 et 17 décembre à Manokwari, en Papouasie-Occidentale, et à Jayapura, en Papouasie. La MINEF organisera une série d'activités visant à promouvoir la bourse, notamment des informations sur les bourses de WCI, la discussion de table ronde réunissant des anciens étudiants de WCI, des programmes de Manokwari et de Jayapura et des ateliers. La MINEF recrutera 6 participants qui rejoindront le programme des 100 étudiants. Secrétaire, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Les nouvelles de l'Indonésie. Des informations uniques et intéressantes de plusieurs régions d'Indonésie.
Bonsoir à tous. Voici les infos de l'Indonésie, un programme qui présente diverses infos intéressantes de divers coins de l'Indonésie dans une semaine. Tout d'abord, l'info de la Mandau, Kalimantan Central. La régence Lamandau a reçu un prix du ministère du droit et des droits de l'homme en tant que district concerné aux droits de l'homme. Le prix a été remis directement par le ministre indonésien du droit et des droits de l'homme, Yasona Lauli. Le prix qui a été remis à la commémoration de la 70e journée mondiale des droits de l'homme à Jakarta, mercredi 12 décembre, était le troisième prix consécutif à être remporté à compter de 2016. Le régent de Lamandau, Hendra Lesmana, à Nanga Bulik, a déclaré « Le prix est très spécial car il a des critères élevés, à savoir la réalisation du droit de la communauté à la santé, tel que le taux de mortalité très bas pour la mère et l'accouchement, et la réalisation du droit à l'éducation de la communauté. Dans le domaine du travail, il existe une évaluation très faible du taux de chômage. En ce qui concerne l'environnement et la foresterie, des zones de captage d'eau et des forêts sont toujours préservées en régence Lamandau. Ensuite, l'info de Poso, Sulawesi Central. Le régent de Poso, Darmin Agustinus Sigilipu, a dirigé l'action pour nettoyer la rivière Poso le mardi 11 décembre. L'action est une collaboration de trois éléments en synergie, à savoir les éléments du front d'amoureux de la nature qui prend soin de l'environnement de la ville Tentena, PT Poso Energy et du gouvernement régional de la région Poso. Les participants de l'action de nettoyer la rivière sont 537 personnes réparties en 86 équipes composées de 10 équipes de garde dans le corps de la rivière et 76 équipes sur les rives du fleuve entre 6h et 17h hors de l'Indonésie centrale. La série d'activités est divisée en 4 points de rencontre autour des rives du fleuve en mettant l'accent sur la sécurité à laquelle les participants doivent accorder la priorité. L'action était la première étape dans l'éducation de la communauté pour qu'elle se déplace autour de la rivière. Dans ses remarques, le régent de Poso a déclaré que cet acte attentionné était une mesure intelligente pour préserver le fleuve de la pollution par les déchets. La dernière, l'info de Wamena, Papouasie. Le gouvernement de la région Jayawijaya en province Papouasie a distribué 3 milliards rupiah pour la construction de l'église catholique Christ Jaya Wamena. L'attribution de subventions religieuses a été symboliquement réalisée par le régent de Jayawijaya, John Wempi Wetipo, à des représentants de l'Église catholique à l'immeuble Soska à Jayawijaya, mercredi 12 décembre. Dans ses remarques, le régent a remercié les catholiques qui ont créé les meilleurs cadres pour aider à diriger le gouvernement dans la région. À cette occasion, le régent a invité les catholiques à réussir l'élection du président et du vice-président ainsi que des membres de la législature en 2019. John Wempi a également lancé un appel aux chefs de village au district Jayawijaya qu'ils ne soient pas menacés par la criminalité. Chers amis, c'était les infos de l'Indonésie.
Les fêtes historiques que nous présentons à travers aujourd'hui dans l'histoire.
Chers amis, nous continuons notre émission avec l'histoire d'aujourd'hui, le 15 décembre. Nous commençons par le jour de combat Kartika de l'armée de terre indonésienne. Le jour de combat Kartika de l'armée de terre indonésienne a été commémoré pour se souvenir de la bataille Ambarawa. La lutte de l'armée de la sécurité du peuple, dirigée par le général Sudirman, à la mi-décembre 1945, a contraint l'armée alliée à se coincer et s'est finalement retirée d'Ambarawa à Semarang. La victoire de la bataille Ambarawa, le 15 décembre 1945, et le succès du grand commandant général Sudirman furent ensuite consacrés sous la forme du monument Palagan Ambarawa. L'armée de terre indonésie commémore cette date chaque année comme une journée d'infanterie. Basé sur le décret du président de la République d'Indonésie numéro 163-1999, la journée de l'infanterie est alors remplacée par le nom du jour de combat Kartika. Le 15 décembre 1995, 10 pays de l'ASEAN ont décidé de créer une zone exempte d'armes nucléaires en Asie du Sud-Est. Ce traité sur une zone exempte d'armes nucléaires en Asie du Sud-Est a été signé à Bangkok et a été ratifié par tous les pays de l'ASEAN. Les pays de l'ASEAN sont le Brunei Darussalam, le Cambodge, l'Indonésie, le Laos, la Malaisie, le Myanmar, les Philippines, Singapour, la Thaïlande et le Vietnam. Ce traité est entré en vigueur le 27 mars 1997. La création d'une zone exempte d'armes nucléaires en Asie du Sud-Est montre les efforts déployés par les pays d'Asie du Sud-Est pour renforcer la paix et la stabilité régionale, au niveau régional et mondial, et pour participer aux efforts de désarmement et d'interdiction d'armes nucléaires en général. Nous mettons fin au programme de l'histoire d'aujourd'hui en signant la Charte de l'ASEAN. La Charte de l'ASEAN est la constitution de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est. Ce document a été adopté lors du 13e sommet de l'ASEAN à Singapour en novembre 2007 et est entré en vigueur le 15 décembre 2008. La promulgation de la Charte de l'ASEAN symbolise également le fait que 10 pays membres continuent de maintenir leur cohésion et leur engagement à former une communauté solide en Asie du Sud-Est. Une réunion spéciale des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN à Jakarta, le 15 décembre 2008, est la preuve de la sincérité de cet engagement. Chers amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui.
Indonesiaku, mon Indonésie présente l'Indonésie dans les domaines de l'économie, de la politique étrangère, le Pancasila, des sports et de l'environnement.
Chers amis, nous continuons notre émission avec mon Indonésie et en titre, l'Indonésie a le potentiel de développer le tensioactif de palme pour optimiser la production du pétrole. En tant que plus grand producteur d'huile de palme au monde, l'Indonésie dispose d'un potentiel important pour développer des tensioactifs à base de palme qui peuvent augmenter la production de pétrole avancé ou la récupération assistée du pétrole. Hassan Ambali, président de First Golden Energy Oil and Gas, a déclaré mercredi à Bogor en pourparlers avec la communauté indonésienne du pétrole et du gaz, KMI, que l'Indonésie était le premier pays à développer des agents tensioactifs à partir d'huile de palme. Hassan Ambali a déclaré que jusqu'à présent, l'huile de palme indonésienne était accusée comme cause de la maladie. Cette campagne noire a entraîné une chute brutale des prix du palmier. L'huile de palme ne peut pas pousser en Amérique, dans les pays arabes, au Canada et en Europe. La plupart de ces pays utilisent de l'huile de cuisson provenant d'autres sources, comme l'huile de tournesol. Selon Ambali, cette concurrence peut être surmontée si l'Indonésie transforme le palmier à huile en un surfactant pouvant être utilisé par les pays producteurs de pétrole pour accroître leur production de pétrole de pointe. L'utilisation de tensioactifs écologiques de huile de palme pour monter la production d'huile de 20%. Hassan Ambali a ajouté que d'après les résultats des essais menés dans l'une des raffineries de pétrole de Pertamina, il avait été multiplié par 4. Il a noté que généralement, un vieux puits produit 10 barils par jour. Après l'utilisation d'un surfactant, il atteint 40 barils par jour. Hassan Ambali a donné un exemple avec un calcul simple. Si un baril coûtait $60 américains, s'il était converti, il coûterait environ 1 million roupias, puis une augmentation de 30 barils pour les puits de petite taille pour apporter 30 millions roupias par jour pour un puits. Il a déclaré que l'Indonésie comptait des antennes de puits de pétrole dispersées à plusieurs endroits. De même, le potentiel de huile de palme indonésienne s'est répandu depuis les îles Sumatra, Java et Kalimantan. Hassan Ambali a ajouté que l'utilisation d'agents tensioactifs à base de palme est également moins chère que les agents tensioactifs à base d'huile qui ont été utilisés par des pays comme l'Amérique, l'Arabe, y compris l'Indonésie. Selon Ambali, l'existence de la technologie de surfactant à base de palmier développée par l'Indonésie est devenue un formidable potentiel pour que le pays devienne le plus grand fournisseur mondial de surfactants à base de palmier. Heri Putranto, président de la communauté pétrolière et gazière indonésienne, a déclaré que son parti avait encouragé toutes les parties, en particulier les acteurs pétroliers et gaziers, à utiliser des surfactants à base de palmier car leur prix était beaucoup moins cher que les surfactants des autres huiles. Cher ami, c'était mon Indonésie. Connaître la richesse de l'art, de la culture et du tourisme indonésien dans le programme Le Magazine Culturel, Pesona Indonesia. Chers amis, nous continuons notre émission avec Le Magazine Culturel visitant Gunung Kidul en province de Yogyakarta pour profiter la beauté de la cascade Sri Gethuk. Donc, restez toujours avec nous, le service mondial de Radio République Indonésie, la voix de l'Indonésie. La région Gunung Kidul à Yogyakarta est célèbre pour ses collines calcaires stériles. Mais à Gunung Kidul, il y en a fait 15 plages charmantes, des grottes uniques et des cascades fascinantes. L'une d'entre elles est la cascade Sri Gethuk, située au sous-district Playen, en région Gunung Kidul, à Yogyakarta. Cette cascade se trouve sur les rives de la rivière Oyo. Pour en profiter, vous devez longer la rivière en radeau. Tout au long du voyage, vous admirerez des vallées calcaires de chaque côté et des arbres épais. En saison chasse, l'eau de la rivière sera très claire, verdâtre et calme. La cascade Sri Gethuk a trois sources, à savoir les sources Ngandong, Dongpo et Ngumbul. Ces trois sources se rassemblent et coulent à travers de hautes falaises pour former la cascade Sri Gethuk. Cette cascade a une hauteur d'environ 25 mètres avec 3 à 5 cascades, mais cela dépend de la saison. L'eau jamais séchée est tombée et n'a pas fait un étang, mais a immédiatement rampé des roches calcaires bien ordonnées sur les rives de la rivière. Pour se rendre à la cascade Sri Gethuk, les visiteurs peuvent prendre un véhicule en traversant la forêt d'eucalyptus de Purutani. Une fois que vous atteignez le lieu de pêche qui fait également aire de stationnement, les visiteurs doivent poursuivre leur route pour se rendre à la cascade Sri Gethuk. Il y a deux choix qui peuvent être passés. Le premier est en marchant dans le sentier, en parcourant le sentier à environ 450 mètres, vous pourrez voir l'étendue des rizières et des rangées de cocotiers. Pour se rendre à la cascade, le voyage continue en descendant jusqu'à 96 marches. Alors que la deuxième option est assez extrême, parce que vous devez traverser le courant rapide de la rivière Oya avec un simple radeau constitué de planches et de tonneaux usagés. Pendant environ 15 minutes de voyage, vous verrez les arbustes verts au milieu de falaises karstiques robustes à gauche et à droite de la rivière. Le son du radeau qui révèle la clarté de l'eau est comme le rythme d'une chanson naturelle qui rassure l'âme. Pour entrer dans la cascade Sri Gethuk, les visiteurs ne paient que 3000 rupiah par personne, tandis que louer un bateau, 5000 rupiah par personne, et pour la location de pneus, 2000 rupiah par personne. Cette cascade est gérée par la communauté du village Bleberan. Bien que l'endroit soit isolé, mais une fois que vous avez atteint la cascade Sri Gethuk et senti l'eau couler entre vos orteils, toute la fatigue que vous ressentez changera instantanément avec un confort extraordinaire. Le bon moment pour visiter la cascade Sri Gethuk est la saison sèche et le matin, parce que pendant la saison chasse, la cascade paraîtra plus claire. Vous commencerez le voyage le matin en descendant la rivière ou en marchant accompagné du chant des oiseaux qui ajoutera à la beauté de votre voyage. Chers amis, c'était le magazine culturel pour ce soir. Merci d'être fidèle avec nous. Au revoir.
Warna-warni, l'Indonésie en couleur, présent les informations sur les femmes, les jeunes et les réussites de l'Indonésie.
Bonsoir à tous. Nous continuons notre émission avec l'Indonésie en couleur, en formant sur un outil créé par les enfants de la nation qui peut convertir les déchets plastiques en mazout. Donc, restez toujours avec nous, le service mondial de Radio République Indonésie, la voix de l'Indonésie. Le nombre croissant de déchets plastiques est devenu l'un des problèmes sur lesquels le public et le gouvernement doivent se concentrer pour pouvoir les atténuer conjointement. Divers mouvements et campagnes visant à réduire la quantité de déchets plastiques ont été réalisés. L'une d'entre elles consiste à innover afin de transformer les déchets plastiques en objets plus utiles, comme Dimas Vijanarko, qui, avec la communauté Get Plastic, a créé un outil permettant de transformer les déchets plastiques en mazout. Pour perfectionner cet outil nommé GP07, Dimas prend environ 3 à 4 ans. Ce processeur de déchets GP07 est fabriqué à l'aide de matériaux simples tels que des tubes usés et des pipes en paralon. L'outil effectue le processus de pyrolyse avec une méthode de distillation sèche pour produire de l'huile. La pyrolyse est un processus de décomposition thermochimique d'un matériau par chauffage de la température maximale avec peu ou pas d'oxygène et d'autres réactifs chimiques. La pyrolyse joue un rôle important à l'étape initiale, transformant la matière plastique en gaz. Le processus de chauffage est réalisé en 5 à 10 minutes. Si cela est expliqué plus simplement, les déchets plastiques qui ont été triés et nettoyés sont placés dans un tube à chauffer à une température de 400 à 500 degrés Celsius. Dans un tube étanche à l'oxygène, le plastique se cassera chimiquement puis se transformera en gaz. De plus, après avoir été refroidi, le gaz se transformera en un liquide sous forme de mazout équivalent à de l'essence ou de diesel. Au moins 1 kg de déchets plastiques traités avec cette GP07 peut produire 1 litre de pétrole brut. Le mazout produit a un indice d'octane RON 84. Il peut donc être utilisé pour le carburant de véhicules, les moteurs diesel et les réchauds à mazout. Selon Dimas, le produit fabriqué à partir des équipements de traitement des déchets plastiques GP07 peut constituer un substitut des carburants alternatifs aux combustibles fossiles en voie d'épuisement. Cela peut aussi être une autre façon de traiter les déchets plastiques avec une valeur de produit final plus élevée et pas seulement temporaire. Chers amis, c'était l'Indonésie en couleur.
Chers amis, un grand merci de votre fidélité d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Avant de terminer cette émission, nous présenterons les chansons indonésiennes. Merci à tous. Au revoir.
Pelangi Nada, le magazine musical, vous présente les musiques et les chansons indonésiennes.
Bonsoir les auditeurs de RRI du Service mondial de la Voix de l'Indonésie. N'importe où que vous soyez, on se retrouve avec moi, Tiwi, dans la rubrique du magazine Musica. L'édition du magazine musical aujourd'hui va vous présenter les chansons de Sandy Canester. Pour commencer notre rencontre d'aujourd'hui, je vous donne la chanson intitulée « Aku cuma ingin kamu » ou en français « Je ne veux que toi ». Bonne écoute.
Ada saat aku tak selalu denganmu, tapi itu tak selamanya. Cinta kita tak seperti mereka. Kita yang punya, kita yang rasakan. Aku cuma ingin kamu yang menemani hidupku sampai kita tua, hidup bahagia selama-lamanya. Aku cuma ingin kamu yang menemani malamku. Sayang, percayalah, semua akan indah pada waktunya. Tak perlu kau tanyakan perasaanku, yang pasti hanya untuk kamu. Cinta kita tak seperti mereka. Kita yang punya, kita yang rasakan. Percayalah pada cinta. Aku cuma ingin kamu yang menemani hidupku sampai kita tua, hidup bahagia selama-lamanya. Aku cuma ingin kamu yang menemani malamku. Sayang, percayalah, semua akan indah pada waktunya. Aku cuma ingin kamu yang menemani hidupku sampai kita tua, hidup bahagia selama-lamanya. Aku cuma ingin kamu yang menemani hidupku sampai kita tua, hidup bahagia selama-lamanya. Aku cuma ingin kamu yang menemani malamku. Sayang, percayalah, semua akan indah. Sayang, percayalah, semua akan indah pada waktunya. Pada waktunya. Percayalah, semua akan indah pada waktunya.
Voilà la chanson de Sandy Canester dont le titre est Aku cuma ingin kamu. Aku cuma ingin kamu signifie je ne veux que toi. C'est la dernière chanson de Sandy Canester qui a été publiée le 4 décembre 2018. Sandy a admis que cette chanson est la quatrième chanson de son troisième album qui sera bientôt lancé. Cette chanson est le résultat de sa propre création inspirée de l'histoire de son ami. La chanson intitulée « Aku cuma ingin kamu » ou en français « Je ne veux que toi » est écrit depuis 2010 et raconte deux couples qui espèrent être ensemble pour toujours. Le processus de la romance est difficile, mais ce sera beau si nous voulons être patients. Chers auditeurs, écoutons ensuite une chanson intitulée « Awalnya » ou en français « Au début ». Bonne écoute!
Awalnya biasa, tapi lama-lama jadi tak biasa. Melihatmu awalnya biasa, tapi lama-lama jadi salah tingkah. Di dekatmu awalnya biasa, tapi lama-lama jantung terbiasa jalani setiap hari bersama. Lalu ku jadi suka. Awalnya biasa, tapi kamu di hidupku awalnya biasa, tapi lama-lama ku selalu menunggu pesan dari kamu. Mungkin karena kita terbiasa jalani setiap hari bersama. Lalu ku jatuh cinta. Ku jatuh cinta. Ku jatuh cinta.
Chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson « Awalnya » ou en français « Au début » de Sandy Canister et Nadia Fatira. Elle a été publiée par Sandy Canister en août 2017. Sandy Canister a trouvé l'inspiration pour cette chanson lorsqu'il a attendu d'un projet de réunion du collège. À partir de là, Sandy a écouté l'histoire de son ami racontée dans les paroles de la chanson. Les paroles parlent aussi d'une relation qui se développe à partir d'habitudes. Au début, ils étaient seulement habitués à s'attendre les uns aux autres et à s'échanger des messages. Mais de cette habitude, l'amour grandit entre deux personnes. Bon, chers auditeurs, je vous donne ensuite deux chansons de Sandy Canester intitulées Salut Perempuan et Sedang Jatuh Cinta, en français Tombé Amoureux. Ces deux chansons terminent également notre réunion d'aujourd'hui. Voici les deux chansons chantées par Sandy Canester.
Kamu yang indah, begitu indah, kau yang terindah. Kamu yang halus, kamu yang lembut, itulah kamu. Semesta ini akan ku jaga perasaanmu, seluruh hatimu tak terbayangkan bila kamu tak ada di sini. Ku salut pada perempuan yang telah melahirkan aku. Ku salut pada perempuan yang kini menemaniku. Terima kasih perempuan, salut
depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie. RRI World Service, la voix de l'Indonésie, est le service international de RRI. Nous diffusons tous les jours à travers les ondes courtes
sur 3325
kHz par le site www.voinews.id/french ou par l'application RRI Play. RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.
Katanya, cinta itu indah, seindah pelangi yang berwarna-warni. Katanya, cinta itu manis. Semanis wajahmu menawan hatiku.
Cinta padamu senangnya hatiku rasakan ingin selamanya selalu dalam cinta itu yang
Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie. RRI World Service, la voix de l'Indonésie, est le service international de RRI. Nous diffusons tous les jours à travers les ondes courtes
sur 3325
kHz par le site www.voinews.id/FRENCH ou par l'application RRI Play. RRI World Service, la voix de l'Indonésie, informing, connecting, dignifying.
Awalnya biasa, tapi lama-lama jadi tabi. Tapi lama-lama jadi salah tingkah di dekatmu. Awalnya biasa, tapi lama-lama jantungku bergetar pas kau tatap aku. Mungkin karena kita terbiasa jalani setiap hari bersama, oh, lalu ku jadi suka. Awalnya biasa, tapi lama-lama cuma ada kamu.
biasa, jalani setiap hari bersama. Oh, lalu ku jatuh cinta.
Les émissions de La Voix de l'Indonésie peuvent également être écoutées via le streaming audio sur le site www.voinews.id/frenca.
Ada saat aku tak selalu denganmu, tapi itu tak selamanya. Cinta kita tak seperti mereka. Kita yang punya, kita yang rasakan. Aku cuma ingin kamu.
Merci d'avoir écouté les programmes en français de RRI World Service, La Voix de l'Indonésie. Écoutez tous les jours nos émissions en ondes courtes sur 3325 kHz.
Envoyez-nous vos critiques et suggestions à RRI World Service, La Voix de l'Indonésie, RRI, au 4e étage, Jalan Medan Merdeka Barat, numéro 4-5, Jakarta, 1-0-1-1-0 ou PO Box 1-1-5-7 Jakarta. Vous pouvez également rejoindre sur Facebook The Voice of Indonesia et Twitter @voindonesia ou bien Instagram voice-of-indonesia.
RRI World Service, La Voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.